Seigneur, alléluia. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais parler des douleurs de l'enfantement. Donc, nous vivons dans une période critique présentement dans le monde et j'aimerais, sans parler juste d'Israël ou de la Palestine, qu'est-ce qui se passe, mais parler un peu de ce qui se passe dans l'ensemble du monde parce que ça brasse de partout. Donc, c'est pas qu'en Palestine, c'est pas juste en Israël. On va regarder qu'est-ce que Jésus voulait nous dire un peu, c'est quoi les douleurs de l'enfantement. Donc, je pense qu'on est dans des temps où qu'on doit vraiment être prêt. Dis à ton voisin, faut que je sois prêt. Jésus revient. Alléluia. C'est plus le temps de dormir, c'est le temps d'être réveillé. Alléluia. Donc, ce matin, je vais regarder avec vous qu'est-ce que Jésus, en tout cas, une partie de qu'est-ce que je vois. Je n'ai pas besoin d'ouvrir vraiment les pages de journaux. À télévision, nous sommes inondés de mauvaises nouvelles. J'ai juste à prendre un papier, puis un crayon, puis de marquer qu'est-ce qui se passe à travers la parole, et on voit que les choses ne vont pas bien. Donc, on va regarder ça ce matin. Si vous avez vos Bibles, ou on va regarder sur le Power, dans Matthieu, chapitre 24, verset 6, qui nous dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera comme une nation, un royaume comme un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Seigneur, on veut te dire merci ce matin d'être réunis dans ta présence, d'être réunis avec des frères, avec des sœurs, d'être réunis, Seigneur, afin qu'on soit, Seigneur, fort ensemble et que l'amour des plus grands nombres puisse grandir entre nous davantage. Seigneur, que ta parole est une parole à double tranchant, c'est une parole qui est remplie de vérité et aussi une parole qui est remplie d'avertissement pour la fin des temps. Seigneur, nous voulons te remercier, te donner une parole vivante, encourageante, fortifiante, mais de nous mettre également en garde des choses qui s'en viennent. Père, bénis ta parole dans le beau nom de Jésus. Amen et amen. Donc, dans le texte que je viens de lire, vous savez, tout cela, qu'est-ce qu'on voit, guerre, bruit de guerre, toutes ces choses-là, la Bible nous dit, c'est le commencement des douleurs. Nous sommes dans un temps, je crois, que les douleurs dans l'enfantement sont vraiment présents. Donc, ça inclut des guerres, des bruits de guerre, des menaces de guerre, dans une échelle, partout dans la planète, il n'y a rien qui va bien. Nous voyons présentement, je veux juste un peu en parler vaguement, la guerre entre Israël et la Palestine, qui est très chaud en ce moment. Et vous savez, Israël, c'est le centre de la terre, c'est le centre du monde. Je pourrais dire, quand ça va mal à Israël, ça va mal partout dans le monde. Ça va mal dans le monde politique. Les gouvernements sont toutes sur leur défensive. Israël, c'est le peuple de Dieu. Faut pas s'en gêner pour le dire. Et quand Israël est attaqué, tout le monde politique est nerveux. Et nous le voyons présentement. La tension, elle est forte, tellement forte maintenant qu'on voit à travers de toutes ces choses-là, à travers les attaques, la confrontation qui se passe avec Israël et la Palestine, ça doit nous interpeller présentement. Nous parlons beaucoup du retour de Jésus-Christ, mais je pense que les choses sont en train de se placer. Je ne sais pas si vous avez les yeux ouverts, là. Et on voit également, à travers cette guerre, la haine palestinienne qui va vers Israël. Le Hamas, c'est-à-dire, ça veut dire le mouvement de la résistance islamique, c'est un parti radical islamique qui est contre Israël. Et toute cette guerre que vous voyez présentement ou qu'on voit depuis 1948, depuis que les Juifs ont eu leur nation, là, qui ont été déclarés avec leur patrie, tout ça. Donc, c'est une question de territoire. C'est une question que les Palestiniens ne sont pas heureux que les Juifs ont pris du territoire. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans tout ça, mais c'est une question de territoire, toute cette guerre-là. Et pour Israël, qui est dirigé par Benjamin Netanyahou, lui, maintenant, il veut détruire le groupe du Hamas parce que ce groupe est reconnu comme un groupe terroriste, un groupe qui haït Israël et qui veut reprendre des territoires face à Israël. Et Benjamin Netanyahou a déclaré la guerre à ce groupe de terroristes qui a attaqué, comme qu'on a vu il y a deux semaines, sournoisement Israël, des enfants brûlés, des têtes coupées, des femmes. C'était catastrophique, c'était cruel. C'est un monde démoniaque en réalité. Il n'y a rien que le diable qui peut faire de la destruction de cette façon-là. Et ça a soulevé également la haine contre Israël, parce qu'Israël a voulu se défendre et les Palestiniens veulent être reconnus comme un État palestinien, mais ça ne marche pas leur affaire. Et nous voyons tout cela de nos propres yeux et l'attaque du Hamas contre Israël a été la goutte d'eau face à Israël. Maintenant, ces attaques ont dégénéré quand Israël a dit « Vous voulez nous attaquer? Bon, on va attaquer. » Et pour faire monter encore plus la haine, encore le groupe du Hamas accuse Israël que c'est eux. Vous souvenez qu'ils nous ont parlé la semaine passée qu'une bombe qui a tombé sur un hôpital en Palestine. Et, et là, même, ils ont des preuves que c'est pas Israël qu'on fait tomber la bombe. Mais il y a tellement de haine à travers les Juifs que les Palestiniens ne croient pas à ces choses-là. C'est rempli de haine entre ces deux pays-là. Et selon les renseignements, donc cette roquette est venue de la bande de Gaza, mais le milieu arabe là, déteste tellement Israël qu'il ne croit pas, je le répète. Rien ne va plus au Moyen-Orient et tout le Moyen-Orient est en colère contre Israël au point qu'ils veulent le faire disparaître. Écoutez bien, le Hamas, présentement, si on lit encore, je lisais ce matin, qu'entre le Liban maintenant et Israël, ça ne va pas tellement bien. La tension, elle est forte entre le Liban, un groupe qui est contre Israël également, et la montée, on voit également, on pensait que le djihadisme était terminé, mais commence à reprendre également de la force. Donc, les ennemis d'Israël, que ce soit la Palestine, que ce soit le Liban, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Irak, que ce soit la Tunisie, tous appuient les Palestiniens. Donc, ce qui est triste dans tout ça, c'est que beaucoup de morts qui payent le prix pour une guerre qui, à notre sens, qui est inutile. Et le monde vit dans la peur, vit dans la crainte, et c'est une guerre à finir. Et il faut que ces choses arrivent, premièrement, pour voir la prophétie de l'Antéchrist qui va se manifester pour voir le traité de paix. Donc, pour avoir un traité de paix, il faut qu'il y ait une guerre. Vous serez d'accord avec moi ou ça ne va pas. Donc, il n'y a rien qui va dans ce côté-là. Et nous pensons que peut-être qu'on va le voir arriver, peut-être pas demain matin, mais qui est en place. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. N'oubliez pas également qu'il y a d'autres guerres dans le monde. La Russie contre l'Ukraine, qui est très préoccupante également. Les budgets incroyables sur l'armement que les peuples crevent de faim, mais on va s'armer d'une bombe nucléaire, il n'y a pas de problème avec ça. Également, d'autres guerres qui s'en viennent, puis on va en parler, vous allez en entendre parler dans quelques temps, on entend déjà parler. La Chine avec Taïwan et d'autres tensions dans le monde. Dernièrement, si vous avez lu, le Canada avec l'Inde. L'Inde a dit au Canada, sortez de vos ambassades de chez nous, on ne veut plus rien savoir de chez vous. Donc, même au Canada, on commence à avoir des problèmes. Et 23 ministres ils ont demandé à Justin Trudeau, que vous avez lu sûrement, il dit, écoute, déclare la paix pour Israël. Mais il ne veut pas le faire. Pourquoi? Je vous donne pas les raisons parce que je veux pas embarquer là. J'ai mon idée. Mais la tension est tellement forte dans le monde que plusieurs pays sont prêts à attaquer et regarder même la haine de l'antisémitisme, la haine contre les Juifs qui est là présentement. Et pendant ce temps-là, on vit des famines, on vit des tremblements de terre. Il y a des volcans qui explosent un peu partout. L'économie est en train de tomber. Il y a rien aujourd'hui de positif. Tout est négatif. Écoute les nouvelles, tu peux sortir de là en pleurant. c'est tellement épeurant qu'est-ce qui se passe que même dans les débats, juste ici au Canada, les débats de société, face à quel sexe que tu veux adhérer. Et on voit les jeunes qui veulent changer de sexe, des jeunes de 15 ans, 16 ans, 12 ans, qui veulent changer de sexe. Donc, ils veulent banaliser le péché et d'être libre du choix sexuel, les drag queens dans nos écoles, le mariage du parrain, les gens vivent en concubinage et la porno aux États-Unis rapporte plus que le budget américain. Ça vous donne une idée dans quel monde qu'on est à peu près. Donc, il n'y a rien qui est positif. Nous vivons dans un monde sans scrupules. 2 Timothée, chapitre 3 et verset 2 nous dit, « Sache que dans les derniers jours, qu'il y aurait des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyeux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflants d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui ferait leur force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Donc, la Bible est claire que nous sommes dans des temps mauvais, nous sommes dans des mauvais temps. Donc, les derniers jours seront difficiles parce que les gens ne veulent plus rien savoir de Jésus-Christ et de la bonne nouvelle. Ça nous parle encore des signes des derniers temps, que c'est le temps que l'accouchement s'en vient. La montée de la violence également est à la hausse à travers les gangs de rue des gens de 14, 15 ans à Montréal, qu'on voit avec des fusils, des guns, et qui tuent d'autres personnes, 14 ans, 15 ans. Tu t'imagines? Leur vie est déjà scrappée. Ils ont déjà cette force de frappe-là et qui contrôlent les écoles, la violence dans les écoles, les gangs de rue, l'intimidation, le marché de la drogue pour des territoires, la sexualité également, la prostitution par des gangs de rue, même les écoles. Les professeurs se font tabasser. Allô? C'est ici, là, ça se passe, ça. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, là? En Europe, la semaine passée, vous avez vu un jeune qui s'est fait radicaliser par le djihadiste, a tué un professeur. Et encore, il y a des mauvaises nouvelles. Je pense au Sénat, il y a une dame qui s'est fait poignarder, je ne sais pas comment, un coup de couteau. Donc, la violence, elle est partout. C'est partout. On ne sait pas, on s'en va, puis on peut se faire pouf, bonjour, bye-bye, t'es parti. Tout cela, ça nous parle, c'est le commencement des lits douleurs. Le mot douleur que Paul emprunte, ou Jésus prend, c'est le travail, je dirais, et les douleurs de l'accouchement d'une femme qui attend son nouveau-né qui a commencé. Et Jésus compare cela à la femme qui a une contraction qui est en travail pour accoucher de son bébé. Au début, les contractions peuvent être légères, espacées, supportables, mais plus que l'accouchement va approcher, plus les contractions vont devenir fortes et l'accouchement va devenir évidente. L'image de la douleur, l'image de l'enfantement, c'est fréquent dans la littérature apocalyptique. Écoutez bien, elle invoque le caractère de certains problèmes, c'est inévitable, c'est soudain, c'est douloureux, le jour du Seigneur approche. Combien croient ça? Que Jésus est pour retour pour bientôt. Si vous n'êtes pas alerte, frère, je vous avertis ce matin, c'est le temps d'être alerte. Je vais en parler du rétrograde, puis je vais parler aussi comment il faut se comporter. C'est quelque chose qui est venu clair à travers la prière. Et toute cette violence va s'arrêter quand Jésus va mettre le pied sur le mont des Oliviers. Ça n'arrêtera pas avant. Donc, soyez prêts, mes amis. Alléluia. Donc, Jésus revient. Donc, il y aura un repos d'âme et d'esprit pendant 1000 ans, mais on sait qu'après ça, qu'est-ce qui va arriver? Maintenant, les prophéties que nous voyons s'accomplissent. Donc, le bilan maintenant, le bien est mal, le mal est bien, et les vraies valeurs de la conception du cœur de Dieu disparaissent dans le monde. Le cœur de l'homme est malade, il est désemparé, il est perdu, il est éloigné de Dieu. Et Matthieu 15, 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. » Donc, le cœur de l'homme est malade. Donc, le seul remède, nous le savons, c'est Jésus-Christ, il peut guérir le cœur. Le monde des ténèbres est actif aujourd'hui plus que jamais. Tout est bouleversé. tout, je vous dis là, tout est bouleversé. Même la mère nature est déchaînée. Tu t'imagines, cet été, il y a eu des feux de forêt comme qu'on n'a jamais eu. Le Québec, présentement, on devrait être dans la neige, il n'y en a pas de neige. Il fait chaud encore. Même les scientifiques ne comprennent pas trop qu'est-ce qui se passe. Tu t'imagines, toi, qui ne connais rien dans ça. Fait que le temps est proche, les temps sont difficiles, il faut regarder à l'avant. Sois l'espérance des jours meilleurs. Dis à la personne à côté de toi, il y a des jours meilleurs qui s'en viennent. Il y a des jours meilleurs qui s'en viennent. Alléluia. Donc, Jésus prend le temps de nous avertir que les derniers jours seront mauvais et il faut que tu sois prêt parce que selon Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 2, « Car vous savez bien vous-même car que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Cela veut dire qu'il faut être prêt. Car on ne sait pas quand ça va arriver, c'est ça que ça nous dit. Mais nous voyons les signes qui sont là. Cela veut dire qu'on ne connaît ni l'heure, ni l'année, ni la date, et ni le mois. Personne ne sait. Jésus a dit dans Matthieu 24, 44, « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra là où vous n'y penserez pas. » Et Marc 13, verset 32, « Pour ce qui est des jours ou de l'heure, personne ne le sait, ni les gens dans le ciel, ni le Fils, mais le seul Père. » Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le temps viendra. Donc, on voit les signes des temps, on voit la femme qui est en accouchement, que ça s'en vient, on a une certitude que Jésus-Christ s'en vient, et un voleur, on ne sait pas quand il va venir, puis on ne veut pas que personne ne va être volé ici, hein? Personne ne va te voler, mais un voleur, il sait quand venir voler, n'est-ce pas? Et Jésus, il dit, moi, je vais venir comme un voleur. Et on sait que c'est dans la nuit qu'on fait des gros dodos. C'est là qu'on ronfle, hein? C'est là qu'on se repose, puis c'est là qu'on ne s'attend pas à être dévalisé, puis c'est pas là où on se sent en sécurité. Et le texte nous dit, sois sur tes gardes, veille. Donc, veiller, ça veut dire, c'est pas le temps de dormir, c'est le temps d'être éveillé. Fais preuve de vigilance. Nous sommes dans une époque où il faut être vigilant, les frères. Alléluia. Vous savez, je vous l'ai dit souvent, je voyageais beaucoup vers l'Europe, énormément, et à certains moments, on a passé à des endroits où il y avait des belvédères. Vous savez, des belvédères, c'est des endroits qu'on arrête, qu'on voit tout le paysage, on voit toute la beauté de la nature. Et on sortait de l'auto pour regarder la nature sur les belvédères. Donc, c'est à nous, ce matin, d'être sur nos belvédères et d'être vigilants et de regarder au loin qu'est-ce qui se passe. Dites-moi un gros amen. C'est le temps de regarder qu'est-ce qui se passe. La voix du Saint-Esprit nous avertit d'être sur nos belvédères, d'être en prière, d'être vigilant et de regarder. Les temps sont orageux car nous voyons les signes des temps. Je vais parler quelques minutes sur les 10 vierges sans rentrer dans tous les versets et je vais appliquer vraiment aussi certains avertissements. Nous savons que dans Matthieu chapitre 25, c'est le temps des noces. Et les mariés, vous savez, vous connaissez les textes par cœur, là, vont tarder à venir. Donc, 5 vierges sages donc, vont prévoir d'acheter de l'huile en cas que les mariés tardent à venir, donc ils seront prévoyants. Et les mariés, donc, s'ils tardent ou s'ils arrivent, il y aura de l'huile qu'ils vont pouvoir mettre dans leur lampe. Mais les autres, les vierges folles, ils ne seront pas vigilants. Ils ne sont pas souciés de l'imprévu. Ils ne se soucient pas de l'imprévu, donc ils n'achètent pas de l'huile. Comme les mariés tardent à venir, la parole nous dit que tout le monde va aller au dodo. Tout le monde va dormir parce que les mariés tardent à venir. Et les vierges sages, nous savons que je viens de dire, ont été prévoyantes. Et quand les mariés sont arrivés, mais maintenant, ils peuvent mettre de l'huile dans leur lampe parce qu'ils l'ont prévu. Donc, ils étaient capables de continuer la fête et d'aller dans la salle des noces. Et vous savez, j'aimerais dire ce matin humblement, pour avoir de l'huile, nous aimons beaucoup parler de l'huile. Quand j'étais dans le sud de la France, parce qu'il y a beaucoup d'oliviers dans ces endroits-là, je voyais autrefois comment qu'ils écrasaient l'olive avec des grosses mules, puis il y avait la cuve, là, où qu'on écrasait, c'était des grosses pierres, là, donc ça broyait. Et quand l'olive est écrasée, c'est là que l'huile sort, n'est-ce pas? Donc, pour avoir de l'huile, il faut que nos vies soient broyées. Alléluia! C'est une fois broyées qu'on voit l'homme nouveau sortir. tuer afin que le vieil homme meure en lui-même. Écoutez bien, je vais aller encore plus loin ce matin. Alléluia. Quand le vieil homme meurt, l'huile sort et nous voyons la beauté de l'arbre que le nouvel homme porte ses fruits, n'est-ce pas? Alléluia. Sans consécration, sans se mettre à part, je dirais, il est impossible d'avoir de l'huile. L'huile vient par ta consécration. Prêt à l'obéissance, prêt à faire passer le Seigneur avant ta propre vie. Oh, vous avez manqué une grande chance, un gros amen. Alléluia. C'est-à-dire, il faut apprendre à faire la volonté du Seigneur. Alléluia. Les cinq vierges sages, ils ont été intelligents, compréhensibles, donc ils avaient de l'huile pour festoyer. Ils sont préparés, il n'y a pas eu de négligence. Donc, maintenant, les vierges folles, eux, maintenant, n'ont pas prévu ces choses-là. Donc, ils ne pourront pas remplir leur coupe. Je dirais que les vierges sages, folles, ont demandé de l'huile aux sages et parce qu'ils ont été négligentes, ils n'ont pas acheté d'huile. Et la réponse a été directe. Il dit, on ne peut pas vous donner d'huile. Donc, écoutez bien. Donc, il dit, allez vous en acheter. Donc, il est 3h du matin. Tous les commerces sont fermés. Puis l'huile non plus, ça ne coule pas dans 15 minutes. Il faut prendre le temps, n'est-ce pas? Donc, c'est la négligence. L'huile doit sortir, je le répète ce matin, de votre consécration. Elles ne peuvent pas donner de l'huile. Et malheureusement, les vierges folles vont perdre leur privilège de zistouna parce qu'ils ont été négligentes. La négligence, c'est un état d'une personne, écoutez bien, dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou qu'elle devrait faire. Écoutez bien, en tant que chrétien, cela veut dire qu'une personne négligente, soit par son manque de consécration, de l'amour de ton Dieu, les choses de la vie sont plus prédominantes que ta vie avec le Seigneur. Écoutez bien, vous savez, autrefois, j'ai pris cette illustration-là et d'autres, quand on chauffait les trains, à l'époque, c'était des trains qui avaient des chaudières, qu'on mettait du charbon, et on en mettait du charbon pour que le train avance. Mais si une pierre sortait du lot, donc cette pierre-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se refroidissait. Donc, et souvent, ça commence comme ça, un chrétien qui commence à perdre sa chaleur avec le Seigneur par l'éloignement de ses frères et de ses sœurs. Le refroidissement spirituel commence par la négligence. La négligence commence par un manque, soit par la prière, soit par la lecture de la parole de Dieu, soit qu'est-ce qui concerne le royaume de Dieu, soit qui concerne votre assemblée ou les assemblées, l'amour premier disparaît. Et on se trouve d'autres préoccupations que le royaume de Dieu et sa justice. Cette négligence nonchalante te fait perdre ta consécration et tu refroidis. Je vais aller plus loin, car tu t'éloignes de qu'est-ce qui est de plus précieux, la fraternité entre les frères et les sœurs qui peuvent nous donner de l'encouragement, qui peuvent nous donner de l'amitié, qui peuvent nous donner de l'amour. Alléluia! On a besoin en tant qu'art d'être ensemble. Alléluia! L'huile qui doit sortir avec ces vierges folles-là ne sort pas. Pour avoir de l'huile, il faut que nos âmes soient nettoyées comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament, vous savez, qui nettoyaient la menorah. Et la menorah, c'est la lampe à 7 branches, là. Et les sacrificateurs nettoyaient la menorah et regardaient s'il y avait des déchets qui s'avaient faits avec les mèches et tout ça. Et en même temps, ils enlevaient les mèches qui étaient terminées, les mèches qui étaient à fin de vie pour ne pas empêcher l'huile de monter. Donc, dans le lieu saint, la Bible nous dit également qu'il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien. Donc, c'est la menorah qui éclairait le lieu saint. C'est bien, il est nécessaire, je dirais ce matin, que le Saint-Esprit fasse du ménage dans nos vies. Non, dites-le avec moi. Demandez au Saint-Esprit de venir faire du ménage. Vous savez, cette semaine, j'ai fait une prière. Seigneur, je suis couché, puis avec tout ce qui se passe, le Seigneur enlève-en la poussière parce qu'il y en a dessus. Fais du ménage. Je ne veux pas manquer le bateau, moi. Je ne sais pas si vous voulez vous manquer l'enlèvement, mais ça ne tente pas. Donc, on se consacre, puis on essaye d'aller plus loin. Hey, l'huile qu'on pense, vous êtes la lumière dans la société. Mais s'il n'y a pas d'huile, comment vous allez briller? Allô? Comment vous allez briller si ça n'est pas d'huile? Donc, demandez au Saint-Esprit de nettoyer. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas d'huile, on devient des âmes ou des chrétiens fades, qui plus de sel. Donc, vous êtes la lumière du monde. Et la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Si on ne fait pas le ménage, tranquillement, la soif de Dieu perd de nous, mais... Même si on parle de Jésus, même si on parle du retour de Jésus-Christ, on est négligent. Je me souviens, il y a 30 ans, quand on était jeune chrétien, on nous parlait du retour de Jésus. C'était impensable. On était loin, on en parlait, mais pas comme aujourd'hui. Parce que tout est bouleversé aujourd'hui. Ça doit vous interpeller. Le message de l'Évangile doit nous interpeller. La vérité doit impacter le monde qui ne connaisse pas Jésus-Christ. La parole nous enseigne de la part des 7 églises. Écoutez bien. J'ai sorti quelques points, alléluia, que plusieurs qu'à la fin des temps vont perdre leur premier amour, qu'ils vont être refroidis dans leur foi. Ça nous parle de l'église Éphèse, que Jésus les exhorte à retrouver leur premier amour. Même le nombre, le plus grand nombre vont refroidir à la fin des temps. Et encore, certaines personnes ne seront ni chaudes ni froides. Apocalypse 15, je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Plus cette foi au bouillant. Écoutez bien, Jésus désire que l'Église ne soit pas entre les deux. Jésus, je crois qu'il nous veut bouillant. Bouillant, vous avez moi, bouillant. C'est quoi bouillant? Un dérangeant. Un dérangeant qui va déranger le monde des ténèbres. Alléluia. Il y a des choix à faire. Donc, Jésus veut que tu sois chaud pour le royaume de Dieu. Romains 12, verset 11, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Servez le Seigneur et soyez fervents d'esprit. Alléluia. Et le mot grec classique, zèle, c'est l'esprit du guerrier. L'esprit du guerrier, c'est une personne qui s'est entraînée pour la victoire. Alléluia. Donc, j'espère qu'on s'entraîne pour la victoire, n'est-ce pas? C'est une personne qui est déterminée à accomplir sa mission et de rendre fin à la mission. Un guerrier entraîné, c'est un guerrier qui est fervent d'esprit. Fervent d'esprit, c'est une personne qui désire que sa flamme reste allumée. Avez-vous cette violence dans votre cœur? Honnêtement, là, je vous parle un matin, là. Est-ce que vous avez cette violence dans votre cœur? Que Seigneur, il faut que j'aille de l'huile, que je vais être violent avec moi-même, il faut que je me fasse violence à quelque part, il faut que je me réveille, hallelujah, c'est plus le temps de cela, c'est le temps d'être vigilant, les signes des temps nous parlent que ça va accoucher bientôt, la négligence, c'est souvent l'indifférence face au royaume de Dieu, et même Jésus a dit à l'église de Sardes, chapitre Apocalypse 1, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Donc, tu peux donner l'apparence d'un chrétien vivant, mais à l'extérieur, tu peux être vide, tu peux être sec, et au fin de ton âme, la flamme n'y est plus. C'est ça que c'est en train de dire. La vie de l'esprit est éteinte. Frères et sœurs, si c'est votre situation ce matin, je vous en supplie, réconciliez-vous avec le Seigneur. Je vous en supplie, de tout cœur, de toute âme. C'est plus le temps de jouer à l'Église. C'est plus le temps. Je vais en parler dans quelques minutes. Vous savez, Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Si vous êtes sec, comme dans la vallée de l'ossement, Jésus ressuscite. Alléluia. Il a ressuscité les ossements. Il n'a pas resté mort, il a ressuscité. Alléluia. Il les a mis sur pied. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la compassion de Dieu. C'est à toi de voir ce matin où tu en es rendu. Alléluia. Donc si tu n'as pas d'huile, reviens à la charge. L'huile, ça ne s'ajoute pas. Il faut que tu passes par la consécration. Donc, je peux prier. On peut toute l'Église, on peut tout prier, mais si tu ne te prends pas en main, ça, c'est ta responsabilité. Dis avec moi, c'est ma responsabilité. Tu peux dire, frère, prie pour moi. Je peux prier pour toi, mais le reste t'appartient. Je peux avoir compassion pour toi, mais ton salut est à toi. C'est à toi d'entretenir ton salut. Ça y est, soyez disciplinés, soyons sérieux avec Jésus. Gardez nos cœurs, gardons nos cœurs avec Jésus-Christ. Restons dans la vérité. Alléluia. Si nous négligeons ce si grand salut, alléluia, c'est triste. Donc, on risque de tout perdre et même d'être surpris de même pas entrer dans la salle du roi. C'est ça que Jésus a voulu donner comme parabole. C'est le temps de la consécration, de veiller, d'être alerte dans ce qui se passe. Il faut comprendre que pour chacun de nous, quel temps que nous sommes. Et j'ai sorti le texte de Romains, chapitre 13, verset 11 et verset 12, qui nous parle vraiment où nous en sommes présentement. Cela importe, d'autant plus que vous sachiez en quel temps que nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près que nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Donc, Paul, il dit, c'est plus le temps de dormir. Donc, c'est plus le temps d'être assoupli. C'est plus le temps de perdre son temps. L'heure est avancée. Jésus s'en vient. Paul, même à son époque, croyait au retour de Jésus-Christ. Il voyait la méchanceté dans la vie des gens. Il voyait le péché, la rébellion comme son sauveur. Il a payé chèrement sa vie pour annoncer le salut par grâce. C'était le ministère de Paul, d'annoncer la bonne nouvelle. Il voyait la méchanceté. Dans sa tête, Jésus revient. Il était en train de dire aux gens, « Préparez-vous! » Donc, les gens, cette semaine, ceux qui m'ont écouté l'émission de chez nous à chez vous, je vais parler cette semaine de la destinée de l'âme. On va parler de l'enfer, on n'en parle pas bien, là, mais je vais en parler cette semaine, l'enfer, la souffrance, les avertissements que Jésus donne, et c'est le temps d'être sérieux, alléluia. Plus que j'enseigne, plus que je prêche, plus que je fouille, alléluia, je reviens au salut, je reviens au premier ministère que j'ai fait sur la route, de recommencer à prêcher le salut, parce qu'on a besoin d'entendre, alléluia, on a besoin d'être sérieux avec le salut. On a besoin de prendre une prise de conscience. Frères et sœurs, c'est plus le temps d'être négligent, c'est le temps d'être ferme avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit, la nuit est avancée. Donc, ça veut dire que c'est proche. La nuit est avancée. Implorer la grâce de Dieu. Il est le temps d'être sérieux. C'est le temps d'être réveillé. Alléluia, de remettre sa vie en règle avec Jésus. Des témoins, d'être des témoins efficaces. Alléluia. L'efficacité des témoins remplis du Saint-Esprit. Moi, je crois que c'est le temps, comme jamais, pour l'évangélisation, puis je vais terminer tantôt avec ces points-là. Démontrons notre amour à notre société. Mettons les jugements de côté. Mettons ça de côté. Travaillons pour le bon terrain. Alléluia! Combien sont d'accord avec ça? C'est pas l'étiquette qui va nous sauver. C'est pas l'étiquette religieuse qui va nous sauver. Ça n'a rien à foutre, ça. Qu'est-ce qui va nous sauver? C'est le salut. Alléluia! Démontrons qui nous servons. Nous sommes dans des temps d'apostasie. Nous sommes là aujourd'hui. Parlez aux gens. Les gens ne veulent rien savoir de Jésus. Les gens s'éloignent de Jésus. On va parler du cœur de Dieu. Ils ne veulent rien savoir. C'est vraiment... L'homme a fait un divorce avec Dieu. C'est là que nous sommes. Même dans le milieu chrétien. Écoutez bien, j'ai sorti des illustrations que bien des gens... Même dans nos églises, je connais même des personnes personnelles qui sont venues à l'église et aujourd'hui ne veulent plus rien savoir de l'église. Écoutez bien, 1 Timothée 4, verset 1. « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. » Écoutez bien, cela, ça nous parle de vigilance. Nous voyons des gens qui sont venus à l'Église, que j'ai connus personnellement, des bons frères, des sœurs qu'on a connus, qui ont venu à l'Église, qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont fait baptiser d'eau, baptiser du Saint-Esprit, servir dans le corps de l'Église de Jésus-Christ, qui aujourd'hui ont tout abandonné. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça, là, mais on le voit dans nos églises. Pour plusieurs raisons, vous allez dire, mais ça nous parle quand même des temps d'accouchement. Donc, les gens n'ont plus la flamme. Et l'apôtre Paul dit, c'est maintenant, le salut est prêt plus qu'autre chose. C'est le temps d'être prêt. Notre délivrance approche. Alléluia. Donc, si la délivrance s'en vient, donc il faut persévérer, il faut se faire violence à quelque part. Le temps est là. Matthieu 11, verset 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et c'est aux violents qui s'en emparent. » Donc, c'est quoi les violents? Le royaume de Dieu va avancer malgré l'opposition. Seuls les violents vont prendre position. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Les violents sont ceux que le royaume des cieux a pris d'assaut votre cœur, votre pensée, vos âmes, votre esprit, votre avenir. Donc, ton zèle te suit, tu es violent pour le royaume de Dieu, qui fait que tu vas mener un homme ou une femme dangereux pour le royaume des ténèbres. Et c'est le temps que lui se fasse brasser. C'est le temps de l'Église de dire, toi ennemi, tu as une guerre, mais on va la gagner, notre guerre. Alléluia. On va aller chercher le plus d'armes possible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est le temps d'être debout. Alléluia. Nous voyons, vous êtes citoyens du royaume de Dieu. Et branlons ces ténèbres-là. Il y aura des luttes, il y aura des défis. Mais Jésus dit dans Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Donc, ça veut dire, dégonfle pas ta balloune. Reste ta balloune bien gonflée. Perds pas courage. Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Jésus revient. Il faut être prêt. L'enlèvement, ça va être quelque chose de vite, de rapide. Ça va être comme un clin d'œil. Fais un clin d'œil. C'est vite, hein? Il faut être parti. Pouf, bye, bye. Un clin d'œil. C'est vite, c'est rapide. Au son de la trompette, la Bible nous dit qu'on va partir. On va aller rejoindre notre bon sauveur. Alléluia. 1 Jean 3, 2, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, nous serons semblables à lui, mais avant, il faut se préparer. La préparation spirituelle, c'est votre demain. C'est votre demain qui est devant vous. Vous savez, il faut, je dirais, je dis souvent, Manon, il faut que je me fasse violence davantage. Moi, dans ma tête, c'est « faut que je me fasse violence davantage ». C'est tout aussi simple que ça, « faut que je dérange ». Je sais que je suis un dérangeant, là, mais il faut que je dérange encore plus. Ceux qui me connaissent, ils savent que je dérange. Mais il faut que je dérange. On dort trop, les églises. Soyons honnêtes. On vient à l'église, c'est dimanche. « Oh, c'est dimanche, on va à l'église ». Mais après ça, il n'y a plus rien qui se passe. Ça ne marche pas comme ça, la vie chrétienne. Là. La vie chrétienne, là, vous êtes cette lumière que j'ai dit en tout temps. Tu dois briller en tout temps. En tout temps. Saisir tes occasions en tout temps. Il y a toujours un espace qui s'ouvre. Pff, parle de Jésus. Alléluia. Nous voyons des gens qui vont dans les rues, qui vont partout. Alléluia. Moi, j'acclame ces choses-là. Parle de Jésus. Alléluia. Annonce la bonne nouvelle. Mais toi, entre-temps, continue ton œuvre de sanctification. C'est le temps d'être dans la vérité. C'est le temps d'être dans la prière. Et c'est le temps de retrouver les jeûnes. On ne jeûne pas assez, les chrétiens. Allô? On commence à prier, jeûner, on a faim. « Oh, on va jeûner. Oh, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. » Manon me dit toujours, « Un jour à la fois, mon amour. Un jour à la fois. » Pense pas au steak de demain. Commence à passer ta journée, puis tu verras demain. Amen. Donc, il faut revenir. C'est la force de l'Église. Alléluia. Et donc, ce serait bon de déclarer des jeûnes. Et on essaye d'en faire le plus possible. Et 1 Pierre 4, 7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. » La fin de toute chose est proche. Un autre avertissement. Je crois également que dans les temps que nous vivons, dans le deuxième point, que c'est le temps, à travers ces temps troubles, que l'Église devienne un. Soit de vivre dans l'esprit de l'unité. Et je vais développer, parce qu'on pourrait faire plusieurs messages sur l'unité, là. Mais le retour de Jésus-Christ doit être examiné à la lumière de l'unité de l'Église de Jésus-Christ. Écoutez bien, et je n'ai pas le temps d'aller plus loin, vraiment loin avec tout ça. Donc, nous devons faire des efforts pour être ensemble dans cette période de temps. Écoutez bien, Romains 15, versets 5 et 6. Que le Dieu de la persévérance, de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la prière de Paul, que Paul adresse à Dieu, nous relève la clé de l'unité. La véritable unité n'est possible que si l'amour est manifesté entre nous et de laisser tomber les jugements et les critiques. Je le répète, c'est un mot qui revient souvent ici. Il faut apprendre à passer ailleurs que là. Il y a tellement de travail qui est devant nous. Lâche ton frère tranquille, puis lâche ta soeur tranquille, puis va voir où tu as besoin. Allô? Vous allez voir, quand vous allez commencer là, tu n'auras plus le temps de critiquer un puis l'autre. L'ouvrage, il y en a, c'est pas ça qui manque. Laisse-moi vous dire, là. Laisse-moi dire, plus que nous allons nous rassembler, et plus nous allons être réunis avec Christ, et plus qu'on va porter les fruits de l'Esprit, plus qu'on va être patient entre nous, plus qu'on va se respecter entre nous, et plus que l'amour se représente entre nous, et plus qu'il y aura de place au pardon entre nous, et plus que nous vivrons dans l'onction du Saint-Esprit. Oui, là, c'est le temps de tout ensemble. Un gros amen. Alléluia. C'est le temps. Alléluia. C'est le temps de se faire violence ce matin. On est peut-être différents. On est peut-être des caractères qui peuvent se frotter. Oui, oui, oui. C'est toutes les églises sont comme ça. Mais on peut aussi se respecter dans nos opinions. Marc 3, 25. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. La division, écoutez bien, c'est le plus grand obstacle que l'Église aujourd'hui connaît et c'est une des raisons pourquoi que l'Église n'est pas efficace. C'est une des grandes chutes que l'Église connaît, c'est la division entre les frères et les sœurs. La division brise non seulement l'unité, mais elle brise les cœurs et elle brise les années ça a pris pour bâtir une église. La raison numéro un pour laquelle que le corps de Jésus-Christ n'avance pas aussi vite, c'est notre manque d'unité, notre manque d'orgueil, notre manque d'amour qui est rempli d'orgueil. Allô? Vous allez dire, tu rentres dedans matin, mais c'est ça la vérité. Nous avons besoin de retrouver l'amour, de retrouver la paix, de retrouver une église tranquille qui va avancer dans l'évangélisation, mais être entre nous, être en paix. Être en paix. Quand tu regardes ton frère, que tu lui donnes la main, tu dis « Le Seigneur te bénisse ». Tu ne dis pas « Le Seigneur te bénisse ». « Le Seigneur te bénisse ». Là, les yeux parlent beaucoup. Alléluia. Et Jésus était parfaitement conscient de cette manque d'unité. Et Jésus a dit dans Jean 17, 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, qui tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Donc, nous voyons l'unité, premièrement, c'est d'être un comme Jésus est avec son Père. Jésus a prié que nous devenons à notre tour des partenaires d'unité avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et d'être unis dans l'amour. Et Jésus, son désir, que nous ayons une unité même, du même cœur, de la même pensée, de la même volonté, que nous soyons attachés profondément ensemble à avoir la parole de Dieu dans notre cœur, à nous aimer, à nous endurer, à nous endurer, et à nous pardonner, et ce n'est plus le temps de dire, 1 Corinthiens 1, 12, « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas, et moi, je suis de Christ. » C'est plus le temps non plus, selon Galates 5, verset 15, « Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. » Wow! Évitons les blessures inutiles, irritations inutiles face à certaines divergences. Il y a la place au pardon, il y a la place à la réconciliation, il y a la place de faire grâce aux autres. Démontrez votre maturité. Amen. C'est le temps. C'est le temps d'arriver là. L'Église, vous et moi, on doit vivre dans la paix. Vivre ensemble, je dirais, va vous donner va nous donner la capacité de faire reculer le monde des ténèbres dans l'Église. Quand je parle dans l'Église, entre frères et sœurs, l'unité véritable, la véritable amour est de résister au piège du diable qui vient pour nous détruire dans l'amour. Écoutez bien, il doit nous protéger de ses attaques. L'Église, elle doit être forte dans le combat, soit de donner à l'enfer le plus de problème possible qui veut nous faire tomber. L'Église doit se garder de division, elle doit se garder de brisure parce que l'ennemi veut détruire. Et c'est à nous à combattre ce bon combat. Alléluia. Le plus grand combat que nous avons, c'est pas entre nous, mais c'est entre le monde des ténèbres. Le rôle, c'est de nous briser, de nous diviser, cela. C'est pour ça, souvent, que nous sommes faibles et que nous sommes vulnérables. Alléluia. Notre force, c'est d'être un, c'est d'être ensemble, unis pour que la moisson puisse avancer. Le monde est en péril. Et je vais terminer dans quelques minutes. Joël, chapitre 3, verset 13. Écoutez bien. Le monde tire à la fin. Et la prophétie de Joël, Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Jean 4, verset 35. Ne dites pas, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs déjà blancis pour la moisson. Donc, la moisson est prête. Que je suis en train de dire, c'est pas normal qu'il y ait des bancs vides le matin, là. C'est à nous à se lever, là. La moisson nous attend. Priez-vous pour de la stratégie d'évangélisation. On sort de dire, on a eu un bon sermon un matin. Oh, t'as bon. Mais oui, mais après ça, on fait quoi? T'as bien bon, on va revenir dimanche prochain. Si j'ai le temps, on va venir à l'église mercredi ou vendredi, ben, on verra. Mais on fait quoi, frères et sœurs? Donc, ce sera juste normal que l'église doive avancer. Si la moisson est blanche, c'est-à-dire c'est à nous d'aller à l'accueillir. On a des stratégies que le Saint-Esprit veut nous donner. C'est le temps de prendre la faucille. C'est le temps d'être ensemble dans l'unité parce que notre force pour aller au champ, c'est d'être ensemble. Donc, c'est le temps d'être ensemble. Démontrons qu'ils nous servons. Le temps que nous vivons, ce temps que je parle ce matin, c'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui sauve, qui guérit, qui délivre. Donc, servons de témoignage à la vérité. Jésus-Christ mort, ressuscité d'entre les morts pour sauver l'homme et son péché. C'est le temps. Vous êtes sauvés? Êtes-vous heureux d'être sauvés? Il y a d'autres contents. D'autres gens vont être contents aussi s'ils sont sauvés. Laisse-moi vous dire, parce que la destinée qu'ils attendent, alléluia, ne sera pas jojo ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Donc, le seul moyen de s'en sortir ce matin, notre plus grande commission, premièrement, dans ces temps d'épreuve, c'est d'être ensemble, d'être unis et d'aller à la mission. J'espère que ça vous parle un peu ce matin. Vous allez dire, ouais, mais toi, tu es un évangéliste. Laisse-moi le mot évangéliste tranquille, là. Tout le monde devrait avoir la passion des âmes. C'est pas juste à moi, ça. C'est pas juste à l'évangéliste, au pasteur, au ministère. Ça vous appartient. C'est vous qui vous êtes dans la moisson. Vous. Nous, on a pas mal à faire, là. Faites votre travail, on va faire la note. Amen. Vous allez dire, ouais, t'es cru. Oui, oui, peut-être, mais c'est un peu ça la vérité, là. Toutes les églises que je connais présentement qui font des percées, c'est des églises unies et non divisées, et c'est des églises actives dans l'évangélisation. Toutes les églises que je connais qui avancent, présentement, ils ont tout un corps pastoral, un corps apostolique, les 5 ministères qui sont actifs, les gens dans la mission qui travaillent pour le royaume de Dieu, qui n'ont pas peur de s'identifier, qui vont dans les rues, qui témoignent Jésus-Christ. Toutes les églises qui avancent, que je connais, qui les frères qui sont au chaud voient les signes et les miracles et les prodiges. Pourquoi qu'on ne pourrait pas voir ça ici? Allô? Là, on joue la tradition, puis travaillons. 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 Mettons la faucille la main et travaillons. Alléluia. On est content. Moi, je pense de tout cœur. Quand je vois une personne arriver à Jésus, je suis content. Je veux en voir plus de ces choses-là. Alléluia. Donc, on va se lever ce matin. Jésus revient. La question que je te pose, es-tu prêt? Es-tu prêt ce matin à ce retour-là? Je vais peut-être demander un chant ou quelqu'un qui pourrait nous diriger dans un chant, frère ou notre frère Robert qui pourrait nous diriger dans un chant. J'aimerais faire 2 appels un matin. Le premier appel que j'aimerais faire, si c'est la première fois que tu viens ici à l'église, tu ne connais pas Jésus, Jésus nous dit qu'il est venu premièrement pour donner la vie éternelle à l'homme. Et si tu veux avoir l'éternité avec ton Sauveur, à la présence de ton Dieu pour l'éternité, c'est d'accepter Jésus comme ton Sauveur. Peut-être que tu ne connais pas ce Jésus-là matin qui veut te faire du bien, qui nous prend le temps de nous avertir ce matin que les temps sont proches, qu'il revient. Est-ce que ton âme, ton esprit est prête à entrer en contact avec Jésus, de rentrer dans sa présence après la mort? Parce que la vie après la mort, ça continue. Les gens nous disent, il est mort, enfin, il est en repos. Tu peux parler du chrétien, mais pour du non-chrétien, tu ne peux pas parler comme ça. Matin, tu ne connais peut-être pas Jésus. peut-être une personne qui irait dire, j'aimerais ça connaître Jésus comme mon sauveur personnel. Pendant que vous avez vos têtes penchées, les yeux fermés, je vais faire cet appel premièrement ce matin. Est-ce que tu connais Jésus comme ton sauveur personnel? Sinon, lève la main, on va juste prier avec toi. Alléluia. Juste lever ta main. Deuxièmement, je vais poser une autre question. Combien sont prêts à admettre ce matin qui ont besoin de remettre de l'huile dans leur lampe? Amen. Amen. Si c'est votre désir ce matin, je vais appeler le comité, je vais appeler Manon. Peut-être notre sœur est-tu ici également? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, va me demander, pendant qu'on va jouer le chant, ceux qui ont levé leurs mains, Seigneur, mets de l'huile dans ma lampe. Je vais être prêt. Faites un pas de foi. Mettez les gens à côté. Pensez pas à eux. Pensez à vous, là. Venez chercher. On va prier avec vous.